Parce que vous avez les enfants pour la fin de semaine et que demain, ils annoncent pas super beau et qu'il y a toujours du nouveau matériel qui arrive soit dans le cinéma ou sur les différentes plateformes de diffusion. On fait une tournée de ce qui se passe dans le merveilleux monde du streaming et du cinéma. Je vais commencer par le cinéma parce qu'il y a trois nouvelles sorties qui sont dans les salles cette semaine et qui sont d'intérêt. Je vais commencer avec Kaamelott, premier volet. Qui est le... Si vous connaissez pas Kaamelott, là, c'est un phénomène. Okay? On parle d'une série qui a été écrite par Alexandre Astier, qui interprète en même temps le roi Arthur dans un univers médiéval assez déjanté. Et c'était des petites capsules très courtes, parce que la télé française, la télé européenne en général, a un format qui est très différent de ce qu'on connaît ici. Ici, c'est des 22 minutes avec des pauses publicitaires pour établir ça à 30 minutes. En Europe, tu peux avoir des émissions plus courtes, avec une petite émission tampon, un petit 5 minutes. C'est les guignols de l'info qui l'ont fait pendant longtemps. Un petit 5 minutes d'actualité avec des marionnettes à la fin du bulletin de nouvelles. Donc, le bulletin de nouvelles durait, mettons, 55 minutes et un 5 minutes de guignol. Yeah. Donc, Kaamelott s'est inspiré de ça, puis c'était des petits épisodes. Mais ça a tellement pogné qu'il y a eu 458 épisodes au total. Des 5 minutes, là. Après ça, on a décidé que ça pognait tellement qu'on a étiré ça à des épisodes d'une demi-heure. Il y a eu, après ça, des bandes dessinées sur Kaamelott, des Kaamelott Origins, genre. Et là, le film, le premier d'une série de trois, vient d'arriver au cinéma. Et déjà, les commentaires sont très bons. En France, on pense que c'est le plus gros succès cinéma depuis les 7 dernières années. Les entrées là-bas, là, c'est astronomique. Ici, les fans de Kaamelott connaissent. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ils n'ont aucune idée de quoi on parle, mais c'est une espèce d'univers là, est déjanté. Puis il n'y a rien qui se tient. Tous les personnages sont niaiseux là-dedans. Oh oui. Tous les chevaliers de la table ronde sont caves. T'as à peu près juste le roi Arthur, puis son père, puis le roi d'un autre territoire qui, dans la vraie vie, est le père d'Alexandre Astier, qui se regarde tout le temps en faisant comme, mais ils sont tous cons. Comme juste nous autres qui comprend. Et éventuellement, le roi Arthur retourne à Rome, puis tu te rends compte que non, c'est juste les Français qui sont cons. Parce qu'à Rome, le monde, tu sais, ils ont comme tout l'air correct, là, ultimement. Là. Et ça, je viens de faire un gros arc d'à peu près 5 ans là, d'épisodes. Et de ce que j'en ai compris, parce que je me suis pas rendu jusque-là, mais Arthur, s'il est pas mort, on le sait pas à la fin. Et le film se passe 10 ans après. Où est-ce que Arthur revient et veut reprendre le contrôle, veut revenir en Bretagne, veut essayer de réunifier tout le monde, parce que ultimement c'est lui qui est supposé être le roi qui unifie tout le monde. Sinon, il n'aura pas été capable de sortir l'épée de la roche, là. Excalibur des mains. Là. tu peux pas avoir Excalibur et ne rien faire de ta vie. Donc, le film est le premier de cette trilogie-là. Les commentaires sont bons jusqu'à maintenant, mais on dit qu'il faut au moins connaître un peu l'univers pour être capable de l'apprécier pleinement. Ouais. Parce qu'on s'entend que sur 450 épisodes de 5 minutes, t'en as du personnage qui est rentré
là-dedans. Mais à la différence de ceux qui veulent entrer dans District 31 actuellement puis qui ont à se taper je sais plus combien de nombre d'épisodes, à 5 minutes l'épisode, c'est moins pire un peu, non?
Mais il y en a 450!
Ouais, c'est quand même moins pire.
Il y en a des 30 minutes là-dedans. Là.
Ouais, mais il y a des saisons de 450 épisodes de 46 minutes aussi. Là,
puis, puis l'autre affaire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont disponibles sur YouTube. Puis en plus. Tu peux les écouter parce que le fait est que comme c'est des courts épisodes, les personnages sont assez faciles à cerner parce qu'ils ont avec le temps, ils ont un arc d'histoire qui est élaboré. Mais veux, veux pas, à 5 minutes d'exposition par épisode, les personnages arrivent et viennent, entrent et sortent assez rapidement. Donc, on peut les saisir rapidement à partir du moment où ça devient des personnages récurrents. Mais t'as Merlin qui réussit jamais à faire aucune de ses potions. les deux tapons qui sont tout le temps à l'auberge en train de manger puis qui comprennent absolument rien. T'as celui qui dit tout le temps c'est pas faux quand il comprend pas ce qui est en train de se passer. Tu sais, t'es en train d'expliquer clairement, là, puis sa réponse c'est pas faux. Ça veut dire qu'il a rien compris, mais qu'il fait comme si.
OK. Ben, j'ai déjà vu des capsules par-ci par-là, j'ai vu quelques épisodes, mais je vais quand même aller me lancer dans la gueule du loup, l'écouter aujourd'hui, plus tard en soirée probablement, profiter un peu plus de la belle journée, mais je vous en reparlerai demain pour quelqu'un qui n'a pas suivi tout ça. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Ouais. J'ai l'impression que oui quand même, mais je vous en reparlerai.
Mais je vais péter votre balloune.
Vas-y.
Moi, les Français me font pas rire.
Moi non plus!
Moi, ça dépend. Plus.
Moi, j'aime beaucoup l'humour britannique. Les Monty Python, j'adorais ça. Quand les Britanniques font de l'humour, généralement, j'apprécie. Les Américains ont un style plus stand-up que j'aime. Saturday Night Live, moi, j'adore, j'en suis. Je trouve que les Québécois, on s'inspire un peu de tout ce qui se fait sur la planète, puis on a un bon style humoristique. Mais les Français, je pas capable.
Pour avoir été aimé avec des Français, là, leur humour, c'est un peu de t'envoyer promener. Disons.
Mais c'est pas drôle.
Oh, mais c'est ça, comme, c'est moi aussi. Là.
Oui, mais c'est très intense. Là. C'est comme, ah, oh, c'est très drôle. Puis tout le monde se met à rire. Toi, t'es comme, hein?
Ben, ce qui arrive, en fait, l'humour français, les sketchs des humoristes, sont très basés sur comme si c'était une pièce de théâtre et t'as plein de personnages.
Ouais.
T'sais, c'est comme l'humoriste entre puis il fait le professeur puis après ça il va changer de voix, il va faire l'étudiant puis c'est comme si c'était vraiment du théâtre.
Non, mais t'as peu là, t'écoutais juste pour rire là, puis quand Anne Romanov ou n'importe
quelle
Française arrivait là, moi c'était mon cue pour aller aux toilettes là.
Mais c'est pas ça, Kaamelott. C'est pas ça. C'est vraiment des sketchs et tu sais l'humour français. Ça reste dans la catégorie de tu fais un sketch avec des personnages, mais là, c'est parce que t'as pas un interprète pour tous les personnages. Mm-hmm. Là, t'as le temps d'établir, puis chacun des interprètes a sa façon d'amener son humour aussi. Honnêtement, j'ai trouvé ça très drôle. Les premières minutes, je fais comme, ça a du potentiel. J'ai hâte de voir où ça s'en va. Et je suis content de pas avoir lâché. J'ai une centaine d'épisodes, peut-être, d'écouter à mon actif, là.
Okay.
Puis tu te tannes pas. Surtout parce que c'est court, puis que tu peux mettre ça sur pause quand tu veux, puis quand ça tombe dans les demi-heures, ben t'es assez embarqué dans la série pour dire je prends la demi-heure puis j'écoute l'épisode au complet.
Okay.
Fait que ça, honnêtement, là, si tu as jamais écouté, là, donne la chance.
Mais moi, je regarde les textos en ce moment. On a plusieurs auditeurs qui semblent l'avoir vu. Kaamelott, je ris encore. Ça, c'est Nicole. Je les ai tous vus. Hilarant. Kaamelott, où est-ce qu'on peut voir le film? J'ai vu tous les épisodes. On se casse pas la tête et on se laisse emporter par le film. Nicole, Kaamelott, c'est hilarant. Le gras, c'est la vie.
Le gras, c'est la vie. Ben oui.
Il y a beaucoup de fans de Kaamelott qui nous écoutent ce matin. Donc, ça me donne le goût tout d'un coup avec un bon popcorn à soir.
De mémoire, il est présenté au clap.
Oui.
Autre sortie cinéma, parce que là, on a parlé pas mal de Kaamelott, on va parler des autres. Snake Eyes.
Ben oui.
G.I. Joe Origins. Les commentaires sont moyens, mais d'un autre côté, les commentaires disent aussi que c'est le meilleur des G.I. Joe jusqu'à date.
La barre était haute.
Oui, c'est ça. Vive le sarcasme. Mais on veut quand même se servir de ce film-là, tu sais, parce que les gens de... je vais avoir 43 en décembre, là. Fait que les gens de ma tranche d'âge, on a grandi avec G.I. Joe, même si moi, j'avais pas le droit de l'écouter quand j'étais jeune. Ma mère a trouvé que c'était trop violent. mais on a quand même grandi. Oui, j'ai vu les...
Non, mais c'est parce que les années 90, c'est le royaume des émissions puis de la commercialisation de la violence, là. Tu sais, je veux dire, Robocop, il y avait des jouets pour enfants, puis le film, genre, c'est sanglant, comme c'est pas possible. J'ai réécouté ça avec mon gars, et je me suis dit, je peux pas croire que ma mère me laisse écouter ça. Ça n'a pas de bon sens.
Demande-moi si j'ai écouté Robocop quand j'étais jeune.
C'est terrible.
Pas écouté Robocop quand
même. OK, ça fait du sens. ça fait du sens.
Donc, Snake Eyes, G.I. Joe, on va probablement apprendre pourquoi le personnage parle pas. Mm-hmm. Parce qu'apparemment, dans le film, c'est pas ça.
Ben, c'est dole un film avec un personnage qui parle pas.
Ben, c'est ça. C'est, je veux dire, à part Quiet Place, là.
Ouais, encore.
C'est ça, c'est pas mal ça. Finalement, la dernière sortie cinéma du côté du suspense. Je trouve la prémisse intéressante. Les critiques disent que c'est. Tu aimes ou tu restes sur ta faim. C'est Anormal, version française de Old, un film de M. Night Shyamalan qui a donné le sixième sens, qui l'a mis sur la map comme il faut.
En fait, son seul bon film.
Signe, j'avais trouvé ça pas pire.
Mel Gibson qui se met du papier d'aluminium sur la tête. Là.
Oh,
puis qu'on se rend compte que les extraterrestres ont choisi d'envahir la seule planète qui a 75% de leur faiblesse, soit l'eau.
Oui, je sais.
Ah, wow. Les grands génies.
Et quand tu le dis comme ça, je suis tellement pas l'air brillant. Là.
Ben non, mais écoute, c'est ça, signe. Tu sais, t'écoutes le film, tu te dis, OK, wow, une invasion extraterrestre. Et quand tu analyses un peu, tu te dis, OK, les extraterrestres ont choisi une planète là où leur faiblesse, qui est l'eau, est présente à 75%.
Ouais, il avait peut-être pas pensé, il savait pas. Là,
c'est une gang d'épais.
T'arrives sur une planète qui a du chemifazole, puis tu n'as jamais eu sur ta peau.
Ben, je comprends, mais...
Il y a la trilogie d'Incassable qui est bonne.
Oui, ça c'est très bon.
C'est très bon, cette trilogie-là, je l'ai trouvé quand même bien.
Puis, village, là, le village.
Oh non,
hey, je dirais pas à la fin pour ceux qui l'ont pas vu, d'un coup, ça vous tente de le voir.
C'est ça le problème avec Shyamalan, c'est que c'est tout le temps des punch à part Lady in the Water. Là.
Ouais, c'est que le punch était que c'était mauvais.
J'ai aimé ça, moi. On a
on est rendu avec trois grands fans de cinéma. Moi, je suis à côté de vous, je suis comme, mais de quoi qu'il parle?
Écoute, le sixième sens, tu connais ça?
Oui, oui.
Bon, c'est tout ce que tu as besoin d'avoir.
C'est ça.
C'est tout ce que tu as besoin d'avoir.
Mais la prémisse de Old, de Anormal, en fait, c'est que c'est une famille qui s'en va en vacances, genre dans les Bahamas, et le propriétaire de l'hôtel les envoie sur une petite île paradisiaque, où est-ce qu'ils sont assurés d'avoir la sainte maudite paix. Ils sont là avec d'autres touristes, et éventuellement, ils se rendent compte que il y a quelque chose de anormal qui se passe sur cette île-là parce qu'ils se mettent à vieillir au rythme d'à peu près, genre, à chaque heure qui passe, ils vieillissent d'un an.
Mm-hmm.
Donc, il faut qu'ils trouvent une façon rapidement de sortir de là parce que t'as pas bebé plus que 80 minutes, on s'entend, pour sortir de là.
Exact.
Là.
J'ai juste une petite remarque. Si jamais vous êtes à Lévis, dans le coin du boulevard Guillaume Couture, près du centre-ville, apparemment qu'il y a un orignal qui se promène tout bonnement en ce moment. Donc, gardez l'œil ouvert.
Ah, non,
de
non,
un
c'est
pour
mon
votre
cheval.
Auto.
C'est mon cheval, c'est moi qui ai monté de Saguenay. Pouvez-vous le rattacher, s'il vous plaît?
On aimerait que vous le rameniez ici,
oui, s'il vous plaît.
Sur chemin Sainte-Foy, s'il vous plaît.
Donc, c'est ça, c'est le suspense de savoir comment ils vont faire pour sortir de cette île-là rapidement. Sur le streaming, c'est je dirais c'est assez tranquille. Je regarde Amazon Prime qui a ma super ex-petite amie avec Uma Thurman qui vient d'arriver en streaming.
T'as vu le film, ça?
Oui.
Oui.
Ça date d'il y a quelques années. Et en gros, elle vient de se faire sacrer là par son chum. Puis elle a des super pouvoirs. Fait qu'elle sert de ses super pouvoirs pour se venger.
OK.
C'est avant la lignée des films de super-héros. Fait que c'est du super-héros très, très dessin animé et caricatural. Quoique du super-héros à la base, c'est très caricatural.
Pas mal, oui.
Oui.
Et sinon, il y a la série Stargirl qui est un personnage que je connais un peu moins, mais c'est dans les super-héros aussi. Là. Toujours sur Netflix, j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine, série qui est arrivée hier, deuxième saison, The Movies That Made Us.
Ah, j'ai écouté hier.
J'ai pas commencé encore.
J'ai écouté hier l'épisode sur mon film préféré de tous les temps, qui est le film qui m'a façonné, Jurassic Park.
Oh, wow. C'est...
Vois-tu, moi, dans la première saison, c'était Ghostbusters mais qui m'avait parlé.
Ah non, moi, c'est Jurassic Park, je l'ai écouté. C'est drôle que tu parles de ça, je l'ai écouté hier. Et honnêtement, là, je pensais tout savoir sur Jurassic Park parce que c'est mon film préféré que j'ai écouté un million de fois et j'en ai encore appris.
Ah ouais.
J'en ai encore appris. C'est tellement bien fait. Là.
Les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, cette série-là, c'est un dérivé d'une série qui s'appelle The Toys That Made Us.
Qui est tout aussi écœurante.
Tout aussi bonne. Et je pense qu'on est rendu à 4 saisons de 4 épisodes chacun. Et on prend des jouets iconiques. On prend les Lego. On prend les Ninja Turtles. On prend les G.I. Joe. Les jouets de Star
Wars. Les Barbie.
Les He-Man et tout ça. Puis on part de... d'où vient l'idée jusqu'à comment c'est devenu un phénomène mondial, jusqu'à l'héritage que ces poupées-là, que ces jouets-là vont avoir amené. Et tu regardes, tu dis, on fait ça sur des jouets. Les films aussi, ça marque l'histoire populaire. Donc, la série The Movies That Made Us, la saison 1, là, j'y vais de mémoire, il y avait Ghostbusters, il y avait Home Alone, il y avait
Die
Dirty
Hard.
Dancing et Die Hard.
Oui.
Et moi, qui est un fan de Ghostbusters, je pensais tout savoir sur Ghostbusters et j'en ai appris. Moi, c'est le film que j'ai écouté. Là. Moi, c'est celui-là que j'ai écouté un million de fois.
Okay.
Je connais toutes les répliques en français. Là. Saison 2, c'est ça. C'est Jurassic Park, Pretty Woman. J'ai les blancs de mémoire sur les films qui sont présentés là, dans la saison 2.
Tu viens absolument de m'en donner un en même temps. C'est super.
Parce que il me semble qu'il y en a un autre que je me suis dit, il faut absolument que j'écoute parce que ça aussi, ça va être intéressant.
Forrest Gump.
Forrest Gump est là, effectivement. Puis il m'en manque un.
Back to the Future.
Puis il y a aussi l'édition de Noël avec 2 épisodes pour Elf et L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Exact.
Donc, si vous êtes amateur de films, si vous avez... Puis on ratisse quand même assez large. Là.
Très large, mais on prend aussi des films qui vont avoir eu un impact ou qui vont avoir changé quelque chose. T'sais, dans le cadre de Jurassic Park, on se centre beaucoup sur l'équipe de ILM qui avait réussi à faire les dinosaures en computer graphics, en CGI. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on apprend, c'est qu'ils avaient fait ça dans le dos de tout le monde.
Oui, c'est vrai, parce qu'au départ, j'ai vu des animations, parce que c'était du stop motion.
C'était supposé être du stop motion avec les gens je pense que c'est Phil Tippett, qui était la sommité dans ce temps-là. Et l'équipe de ILM ont dit, ouais, on va le faire, mais tu sais, genre, en cachette. Et quand ils ont présenté leur premier dinosaure qui marche dans la nature, là, ça a été, OK, le futur, c'est ça. Puis effectivement, depuis ce temps-là, c'est le futur du cinéma, c'est ça.
T'sais. Puis je l'ai réécouté dernièrement à Jurassic Park, ça fait peut-être un an. Puis tu vois que les effets spéciaux numériques ont vieilli par rapport à ce qui sort maintenant. Mais sincèrement, là, je continue à trouver que c'est un standard doré. Là. C'est ce qu'on appelle en anglais le golden standard. Là. Tu te bases là-dessus comme... au moins le niveau à atteindre, puis tu te trompes pas.
Il y en a qui ont mal vieilli. Là.
Non, absolument
oui,
pas.
Tu vois un peu la différence, mais c'est loin d'être mauvais au niveau du CGI, même avec les standards d'aujourd'hui.
Ah, absolument. Puis le mélange, puis le travail qu'ils ont fait sur ce film-là est assez hallucinant. Là. Il y avait des animatroniques, il y avait des images d'ordinateur, il y avait de l'acting. Écoute, il y avait de tout dans ce film-là. Moi, pour moi, ça reste encore l'un des meilleurs films.
Oui, puis si tu regardes juste les comparaisons d'effets spéciaux là, dans le temps, quand t'écoutes Jurassic Park, quand t'as le gros dinosaure qui marche, là, le gras est un peu moins flasque. ce qui peut être aujourd'hui. Les mouvements, les après-mouvements sont moins naturels dans 90 qu'aujourd'hui.
Mais en même temps, il y avait encore juste, la technologie était juste encore pas assez à point pour garder de l'imagination, c'est-à-dire encore cacher des affaires. T'sais, on va faire la scène un peu plus noire pour cacher les défauts. Ah ben là, le dinosaure, on le montrera pas au complet parce que ça va coûter trop cher. T'sais, aujourd'hui, t'écoutes les nouveaux Jurassic Park, pis c'est juste plein la gueule. À chaque fois qu'ils ont une idée de cave, ils la font parce qu'ils sont capables de la faire.
Ouais.
Hey, on met le dinosaure là. OK, ouais, mais pourquoi pas? Je sais pas, c'est hot. OK. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de. Tu sais, ça force pas à travailler et à devenir. L'imagination n'est pas là dans ce temps-là. Tu sais, là, il fallait qu'il règle des problèmes techniques. OK, on ne peut pas le mettre, le dinosaure, au complet. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va mettre un mur, on va mettre de la température, on va mettre des éclairages, on va s'assurer. Et là, ça rend le film meilleur.
Ben, Jaws.
Exactement le même principe.
Jaws, là, pour les gens qui ne savent pas, la raison pour laquelle on voit des plans de caméra sous l'eau qui regardent la personne qui se baigne, c'est uniquement parce qu'on n'avait pas les moyens techniques de se créer un robot requin aussi gros que ça pour le filmer. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais on fait quoi? On fait comment pour montrer le requin? Et Steven Spielberg fait comme,
on le montre pas.
On le montre pas. Ben, Alien, même affaire, c'était un gars d'un suit. Mais on a tellement mis ça dans le noir, puis on a tellement fait des plans rapprochés, puis on a tellement ajouté d'éléments, de textures dans le film que... À un moment donné, tu te dis, on l'a-tu vraiment vu au complet une fois dans le film?
Oui.
On se le pose la question.
Puis on le montre pas souvent non plus.
Absolument.
L'essentiel de Alien, c'est de garder
la tension.
La tension. C'est pas de te le mettre d'en face puis de voir les scènes de combat. Puis je pose la question, 25-226 pour le fun, votre film préféré ever?
De tous les temps.
Toutes catégories confondues. Mettons, il vous reste 2 heures à vivre, puis vous êtes obligé d'écouter un film.
Oh.
Parce que là, rendu là, il reste 2 heures à vivre, t'écoutes peut-être pas un film. Mais mettons, t'es obligé d'écouter un film.
Et tu peux pas écouter le film de ta vie, là.
Non, faut
que t'écoutes un vrai film.
Non, parce que le film de ta vie, tu sais, t'as 40 ans, il va pas durer 40 ans, ton film. Là,
bon, ça dépend, j'ai peut-être juste 2 heures de gros gros stock, tu comprends? J'ai peut-être juste ça, 2 heures.
Ouais, 25-226 pour le fun, textez-moi votre film préféré de tous les temps. Martin, Thomas, t'as parlé de Jurassic Park?
Oui, absolument, parce que c'est intimement lié à mon enfance. Tu sais, en 93, j'étais pas très vieux, c'était mes premières sorties au cinéma. Je peux te dire que je suis sorti de là, genre, ébranlé. Là. J'avais jamais vu une affaire comme ça. Là. C'était incroyable. Fait que c'est resté mon film fétiche à vie.
Anne-Sophie?
Il y a quand même plusieurs films qui m'ont marqué, mais là, vite de même, un qui me revient à l'esprit, c'est Interstellar.
Ah oui.
Ce film-là, je me rappelle l'avoir écouté, puis y avoir réfléchi pendant comme plusieurs semaines, revenir, parce que c'est tellement bien pensé, au final, comme film. Tu sais, c'est pas très réaliste, la quatrième dimension, là, comme à la fin, on voit que, finalement, dans sa bibliothèque, son père était là, mais...
Je vole pas de punch!
Si vous savez pas ça, ça fait 6 ans qu'il est sorti. Bref, j'ai trouvé que ce film-là était tellement bien fait, l'acting aussi, là, tout le monde, les acteurs sont excellents, vraiment, je pense que c'est mon film préféré.
Moi, quand j'ai vu ce film-là, Interstellar, la première réaction que je me suis dit, c'est le 2001 Odyssée de l'espace de notre génération.
Hein? Ouais. Moi, je suis sorti de là en me disant, mon Dieu, je suis bien cave.
Ah non?
Ça m'a pris 3 écoutes.
La fille est tellement intelligente aussi.
Ça m'a pris 3 écoutes avant de commencer à comprendre.
Ah ouais.
Mais en même temps, c'est un peu ça avec 2001 Odyssée de l'espace. Ma première écoute, j'étais là, j'étais, hein?
Il s'est passé quoi? Mais tu sais, c'est ça, c'est le genre de film. Moi, peut-être que j'ai un cerveau relié différemment. Ces films-là, je les catch à peu près du premier coup. Là, Interstellar, j'ai compris Tenet.
Pas Tenet, ça c'est une joke. Je suis sorti de là, j'ai eu mal au cerveau pendant 3 semaines.
Ah, c'est comme une slush là, que tu bois trop vite.
Tenet, c'est comme
tu sors de là, c'est comme...
Ouais, littéralement. Puis moi, j'étais avec des amis qui voulaient tout analyser. Comme, on est sorti du film à 9h, puis à 2h du matin, ils parlaient encore du film. Oh, je pense j'ai compris ça. Moi, j'étais comme, non, là, mon cerveau fait mal.
C'est le syndrome du réalisateur qui s'est tellement trouvé brillant dans ses premiers films que là, il a voulu en faire encore plus, puis là, c'est juste devenu une caricature.
Ouais.
Sorti de là, tu fais comme, non, là, ça, c'est trop. Là.
C'est sûr que quand tu t'arranges pour que les gens ont de la misère à entendre ce qui se dit à cause du mixage sonore dans un film compliqué, là, à un moment donné, tu pousses ta loque.
Exact.
Ouais, mais défends-toi donc. C'est quoi ton film préféré?
Ah, moi, c'est le film qui m'a fait tomber en amour avec le cinéma. Tu sais, quand je dis en amour, pas juste regarder un film au cinéma, les yeux à moitié fermés, puis dire « Oh, il y a du boum-boum », c'est 12 hommes en colère.
Okay.
Un vieux classique, un noir et blanc, avec Henry Fonda. C'est une seule pièce, 12 jurés qui discutent d'un cas, ça sort jamais de là, et pourtant, ça réussit à t'accrocher et à te faire vivre toute une gamme d'émotions. Honnêtement, ce film-là, et je me retiens de l'écouter trop souvent parce que je veux garder un peu de fraîcheur
de magie.
Je l'écoute à chaque fois. C'est une fois par année, des fois deux, mais c'est magique, honnêtement, comme écoute, et ça m'a fait voir le cinéma de manière complètement différente depuis. Là.
Fait que tu vois, François, Tu sais, Interstellaire, mm-hmm. Les 12 hommes en colère. Moi, c'est des gros dinosaures.
Ben là, c'est un grand classique, là.
Moi, c'est des fantômes, pas mieux.
Fait que toi puis moi, ouais, c'est ça.
Faut pas, faut pas se vendre « sell short », comme on dit en anglais. Là. Vous avez des classiques comme film préféré. Là.
On s'entend que, tu sais, tu me demandes c'est quoi mon film préféré, puis ça va dépendre qui pose la question, puis dans quel contexte. Parce que, mm-hmm. tu sais, Ghostbusters, j'ai grandi avec. Je pense que c'est sur la... Mes parents avaient tapé une affaire de 150 films à super écran dans le temps.
Ah,
sur
oui.
Les cassettes VHS, il y avait trois films par cassette. Fait que, tu sais, name it, il y en avait un paquet de films. Mais Ghostbusters, c'est la cassette numéro 1. Fait que,
ouais.
Je l'ai écouté en boucle, puis en boucle, puis en boucle. Mais tu m'aurais posé la question en 2010, je t'aurais dit probablement les Avengers.
Mm-hmm.
2012. Après ça, si tu me parles d'un registre plus sérieux, Shawshank Redemption, À l'ombre de Shawshank, mm-hmm. qui est un excellent film, tu sais, puis il est sorti d'ailleurs sur le 25-2-2-6.
Exact.
Fait que ça dépend... Quand, quoi, ouais. L'ambiance, puis tout ça, là. Mais, tu sais, il y a des excellents films, puis des fois, je peux être très, très champ gauche aussi. Probablement, peu de gens ont écouté et ou compris Donnie Darko.
Oh, Dieu.
Mais moi, ça fait partie des films que j'adore. Mais, tu sais, 2-2-6, La Vita est Bella.
Ouais, c'est ça. Moi, j'allais. Ce film-là, là, c'est le premier film qui m'a fait pleurer et ça m'a marqué. Mm. Je pense que j'aurais dû dire ça quasiment plus qu'Interstellar. Tu sais, le premier film qui te fait vraiment pleurer puis vivre des émotions, là, c'est quand même marquant.
Moi, je m'attendais pas à vivre ces émotions-là au cinéma. Je l'ai vu. Je devais. Ben, quand il est sorti, fait que ça fait une trentaine d'années, probablement, là, dans ce coin-là. Puis je m'étais dit, c'est un film tellement beau que je veux plus le revoir.
Ah, je sais. Puis même affaire, moi, un film qui m'a fait pleurer, tu sais, quand j'ai fini Le Retour du Jedi, j'ai fait...
je comprends.
Je me suis dit, enfin, tu sais, c'est parfait, ils en referont jamais d'autres pour gâcher ça, tu sais.
Ouais, tu t'es trompé, hein, c'est méchantant. Forrest Gump, touchant, et en même temps, on voit les événements importants de ces années-là. Forrest Gump est un film qui a pas la trame narrative d'un film habituel. T'as pas un début, t'as pas une construction, puis t'as pas une finalité. Mm-hmm. C'est juste la vie de quelqu'un sur à qui tout arrive.
Exact. Qui est tout le temps là au bon moment.
Oui, exactement.
Le camarade PL, qui a une bonne histoire, qui va peut-être te rejoindre, Martin, lui, il dit Jurassic Park, je suis allé le voir au cinéma avec mon père. Je suis né en 88, j'avais 4 ans maximum, et le bout quand le dinosaure est dans l'auto, j'ai encore des frissons, je me suis collé à mon père, la frousse de ma vie.
Écoute, il y a un cinépark qui s'est ouvert dans notre région il n'y a pas si longtemps, l'an dernier à cause de la pandémie. Ouais. Et ils ont présenté Jurassic Park, et honnêtement, là, avec toute la forêt autour de l'écran, là, cette scène-là, là, j'étais dans mon char, puis je me suis même moi-même posé la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sentais comme, tu sais, l'espèce de... Il réussit à te faire sentir claustrophobe, là, tu sais, t'es dans ton char, tu dis, oh non, je file pas, là, ça, c'est gros, là, tu sais.
Wow, écoute, ça rentre au 25-2-2-6. Ben on va prendre le temps de vous lire. Blade Runner, j'ai de la misère.
C'est excellent, ça. C'est excellent.
Je sais pas, j'ai pas embarqué.
Dans le même style, Rapport minoritaire avec Tom Cruise.
Oui, ça, c'est
parce
excellent.
Parce que c'est des nouvelles de Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction juste incroyable. Total Recall, Minority Report,
Blade Runner. Ah, ouais, c'est lui qui a tout écrit ça?
Oh oui, c'est un prolifique auteur de science-fiction et il est juste incroyable.
Moi, j'ai appris... que tous les films de science-fiction que j'ai aimés, ou à peu près, c'était tout Philip K. Dick.
Ouais.
Mais à un moment donné, je fais comme, ah, mon Dieu, c'est lui qui a écrit ça. Ouais. Là, après ça, j'ai vu un autre film qui sort, je vois que c'est une histoire inspirée de Philip K. Dick, je me dis, je vais probablement aimer ça, et j'ai aimé ça.
Exact.
Donc, c'est des classiques du cinéma. Hey, on va vous les... Il est rendu 8h30, on a un invité qui s'en vient après la pause, on le fera pas attendre trop longtemps. Courte pause.